From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.
This broadcast is furnished.
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas S. Monson,
premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this afternoon.
Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session générale de la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Hinckley, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, frère Monson, de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux membres de l'Église et aux nombreux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, par Internet ou satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Craig Jessop et de Mac Wilberg avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant From All That Dwell Below the Skies. Ensuite, H. Ross Workman des 70 fera la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, le chœur chantera Ce jour, au cœur, j'ai du soleil. Et après ce chant, L. Tom Perry et Henry B. Eyring du Collège des 12 apôtres nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons Gary J. Coleman des 70. Il sera suivi par Charles W. Dahlquist, président général des jeunes gens. Chant par le chœur.
Our eternal Father in heaven.
Notre Père éternel dans les cieux, avec humilité, nous baissons le front devant toi. Nous te remercions pour tous les mots qui ont été partagés durant les sessions de cette conférence. Nous aimerions te remercier, exprimer notre gratitude pour cela. S'il te plaît, bénis-nous avec ton esprit pour que dans cette session de conférence, nous ayons l'esprit ouvert et que nos cœurs soient doux pour recevoir les mots qui seront prononcés, pour que nous puissions les écouter. Et en le faisant, que nous puissions devenir des acteurs et pas simplement des personnes qui écoutent. S'il te plaît, bénis-nous afin que nous puissions écouter, que nous puissions les écouter en direct ou que nous puissions les lire plus tard. S'il te plaît, bénis tous ceux qui entendront afin que leur vie soit enrichie. Et particulièrement, regarde ceux qui sont malades ou blessés. Regarde aussi les missionnaires dans le monde. Nous sommes aussi soucieux des personnes qui servent dans les services, dans les armées. Protège-les, s'il te plaît. Bénis-nous avec ton esprit aujourd'hui, Père, afin que nous puissions être édifiés dans l'évangile de Jésus-Christ, que nous soyons renforcés pour faire face aux adversités du monde avec la paix, avec de la joie, avec une détermination de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Soul today, more glorious and bright. Lors de l'une des conférences de pieux qui m'était attribuée dans la vallée du lac Salé, j'ai demandé à un jeune président de collège de diacres de se joindre à moi pour parler des clés de la prêtrise. Je voulais qu'il comprenne qu'il détenait un office très spécial, comprenant les clés pour présider un collège de la prêtrise. Nous avons parlé de la grande responsabilité que c'est de détenir les clés et de la bénédiction spéciale qu'est l'appartenance à un collège. À la fin de ce petit exposé, je lui ai demandé combien de membres comptait son collège. Il a répondu 14. Puis je lui ai demandé combien sont pratiquants. Il a répondu 12. Puis j'ai demandé et les deux autres. Il a répondu je dois me mettre au travail et faire d'eux une partie pratiquante de notre collège. Je lui ai ensuite demandé combien de temps cela prendrait. Il pensait que cela prendrait peut-être 3 mois. Je l'ai encouragé dans ses efforts. 3 mois plus tard, presque jour pour jour, j'ai reçu de lui une lettre qui m'informait que tous les membres de son collège étaient maintenant pratiquants. Il a dit qu'il s'était lié d'amitié avec eux, que l'un d'eux assistait aux réunions du collège des diacres et que l'autre avait été ordonné instructeur par l'évêque. Sa réponse m'a bouleversé. Quel exemple de frère qui honore sa prêtrise et qui utilise les clés de la prêtrise pour s'acquitter d'une tâche que le Seigneur lui a donnée à accomplir. Je n'ai pu m'empêcher de m'émerveiller du plan que le Seigneur a établi pour administrer son œuvre ici-bas à l'aide des pouvoirs de la prêtrise. Ce jeune homme, qui n'a pas encore 14 ans, reçoit une formation précieuse pour le préparer à toute une vie de service. Je le vois dans 5 ou 6 ans, continuant à servir avec un insigne sur sa veste, indiquant qu'il donne 2 ans de sa vie en tant que missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En plus de l'expérience qu'il a de s'entraîner à utiliser sa prêtrise pour servir son prochain, ce jeune homme doit aussi se préparer, entre autres, à comprendre en profondeur le message du rétablissement, message que des milliers de missionnaires déclarent aujourd'hui au monde. Ce message est que de nos jours, dans la dispensation de la plénitude des temps, l'Évangile a été rétabli pour bénir toutes les personnes qui veulent écouter et obéir. La dispensation de la plénitude des temps a été ouverte par une vision extraordinaire donnée à un autre jeune homme qui n'avait pas tout à fait 15 ans et qui est allé dans les bois pour demander, en priant, des réponses aux questions qu'il se posait sur la religion. Voici comment Joseph Smith décrit la vision glorieuse qui s'est ouverte à ses yeux. « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Quand la lumière se posa sur moi, je vis 2 personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Écoute-le. Cette vision nous a révélé que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, sont 2 personnages distincts. Chacun a un corps de chair et d'os glorifié et rendu parfait. Cela a dissipé l'idée fausse qui existait depuis de nombreux siècles concernant la divinité. Est-il étonnant que lorsqu'il a écrit les articles de foi, Joseph Smith ait commencé par déclarer « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. » Sachant que le doute, la méfiance et les fausses informations suivraient immédiatement lorsque le prophète raconterait la première vision. le Seigneur a fait paraître le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Cet ouvrage ancien de Saintes Écritures est un compagnon sacré de la Bible. Il contient la plénitude de l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Il donne également au monde la preuve convaincante que Joseph Smith est réellement un prophète de Dieu. Les doctrines et alliances contiennent la déclaration suivante sur l'apparition du livre de Mormon. Dieu donna à Joseph Smith des commandements qui l'inspirèrent, et il lui donna, par le moyen qui avait été préparé auparavant, le pouvoir d'en haut qui lui permit de traduire le livre de Mormon, lequel contient l'histoire d'un peuple déchu et la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ aux gentils et aux juifs également, lequel a été donné par l'inspiration et est confirmé à d'autres par le ministère d'ange et annoncé par eux au monde. Prouvant au monde que les saintes écritures sont vraies et que Dieu inspire les hommes et les appelle à son œuvre sainte à notre époque et dans notre génération, tout comme dans les générations d'autrefois. La traduction du livre de Mormon est un miracle en soi et prouve davantage l'origine divine du livre. Quand Olivier Cowdery est arrivé à Harmony, en Pennsylvanie, le 5 avril 1829, pour servir de secrétaire au prophète, seules quelques pages avaient été traduites. Ce soir-là, Joseph et Oliver se sont assis ensemble et ont discuté de l'expérience du prophète jusqu'à tard dans la nuit. 2 jours plus tard, le 7 avril, ils ont commencé la traduction de l'ouvrage. Pendant les 3 mois qui ont suivi, Joseph a traduit à une vitesse surprenante, près de 500 pages imprimées en une 60aine de jours de travail. Oliver a écrit sur cette expérience remarquable. Ce furent là des jours inoubliables. Cela éveilla en mon sein la gratitude la plus profonde que de pouvoir être là, à écouter le son d'une voix parlant sous l'inspiration du ciel. Jour après jour, je continuais, sans interruption, à écrire l'histoire ou les annales, appelées le livre de Mormon tel qu'elle tombait de ses lèvres, tandis qu'il traduisait à l'aide de l'Urim et du Thummim. Tandis qu'ils avançaient dans la traduction, Joseph et Oliver étaient enthousiasmés par les points de doctrine contenus dans ce livre. Ils étaient surtout impressionnés par la doctrine du baptême enseignée par le Sauveur ressuscité pendant sa visite aux habitants du continent américain. L'importance de la doctrine du baptême s'est imposée clairement à leur esprit. Ils ont décidé qu'ils devaient prier le Seigneur avec ferveur pour savoir comment ils pouvaient recevoir personnellement la bénédiction du baptême. Le 15 mai 1829, ils sont allés dans les bois près de la Susquehanna, la rivière Susquehanna, et se sont agenouillés pour prier. Olivier décrit ce qui est arrivé alors. Tout à coup, comme si elle venait du sein de l'éternité, la voix du Rédempteur apaisa notre esprit. Le voile fut soulevé, et l'ange de Dieu descendit, revêtu de gloire, et remit le message tant attendu, et les clés de l'Évangile de repentir. Quelle joie! Quelle merveille! Quelle chose magnifique! Tandis que le monde était tourmenté, désorienté, tandis que des millions tâtonnaient comme les aveugles qui cherchent le mur, et tandis que la grande masse des hommes était plongée dans l'incertitude, nos yeux voyaient, nos oreilles entendaient. L'ange s'est présenté comme étant Jean, qui est appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Il a posé les mains sur la tête de Joseph et d'Oliver et a dit, À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Et cela ne sera plus jamais enlevé de la terre, jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent une offrande au Seigneur selon la justice. Joseph a raconté, il dit que cette prêtrise d'Aaron n'avait pas le pouvoir d'imposer les mains pour le don du Saint-Esprit, mais que cela nous serait conféré plus tard. Et il nous commanda d'aller nous baptiser, nous prescrivant à moi de baptiser Oliver Cowdery et à lui de me baptiser. En conséquence, nous allâmes nous baptiser. Je le baptisai d'abord, et il me baptisa ensuite. Puis je posai les mains sur sa tête et l'ordonnai à la prêtrise d'Aaron. Après quoi, il posa les mains sur ma tête et m'ordonna à la même prêtrise, car c'était ce qui nous avait été commandé. Peu après, les apôtres Pierre, Jacques et Jean apparurent, posèrent les mains sur la tête de ses deux compagnons de service et leur conférèrent la prêtrise de Melchisédek. Maintenant que le pouvoir d'agir au nom du Seigneur était à nouveau sur terre, il a été commandé à Joseph d'organiser officiellement l'Église. Le 6 avril 1830, chez Peter Whitmer, père, à Fayette, dans l'État de New York, six hommes qui avaient auparavant été baptisés ont voté à l'unanimité l'organisation de l'Église de Jésus-Christ selon les commandements de Dieu. Une révélation a été reçue lors de cette réunion. Voici, un registre sera tenu parmi vous. Et tu seras appelé voyant, parlant de Joseph Smith, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l'Église, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ, étant inspiré par le Saint-Esprit à en poser les fondations et à l'édifier sur la très sainte foi, laquelle Église fut organisée et établi en l'an de grâce 1830, le quatrième mois, le sixième jour du mois qui est appelé avril. C'est pourquoi, et je parle aux membres de l'Église, vous prêterez l'oreille à toutes ces paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera, à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. L'Église de Jésus-Christ était de nouveau sur la terre pour accorder au genre humain la bénédiction de la doctrine et des enseignements du Sauveur. Cette Église a été organisée selon le plan que le Seigneur a établi jadis. Dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, Paul a déclaré, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et parfait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Le président Hinckley a également dit concernant le rétablissement. Puis après le passage de nombreuses générations sur la terre, dont tant ont connu la guerre, la haine et le mal, le grand et nouveau jour du rétablissement est arrivé. L'évangile glorieux a été introduit par l'apparition du Père et du Fils au jeune Joseph. L'aube de la dispensation de la plénitude des temps s'est levée sur le monde. Tout ce que les dispensations précédentes avaient eu de bon, de beau et de divin a été rétabli à cette époque des plus remarquables. Notre message est unique. Nous déclarons au monde que la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ a été rétablie sur la terre. Nous déclarons avec hardiesse que les clés de la prêtrise ont été rendues à l'homme, avec le pouvoir de sceller sur la terre et dans les cieux. Les ordonnances salvatrices dont le Seigneur a dit qu'elles étaient requises pour entrer dans la vie éternelle avec lui peuvent maintenant être accomplies avec l'autorité qui les lie, détenue par les hommes qui exercent dignement le pouvoir de sa sainte prêtrise. Nous déclarons au monde que notre époque est celle que les prophètes de la Bible appelés les derniers jours. Ce sont les derniers temps, juste avant la seconde venue de Jésus-Christ pour régner sur la terre. Nous vous invitons tous à écouter le message de l'Évangile que nous annonçons, notre Église et son Église. Alors vous pourrez comparer ce message magnifique aux autres que vous entendez peut-être. Alors, vous pourrez déterminer lesquels sont de Dieu et lesquels sont de l'homme. Je vous témoigne que cette Église est l'Église de Jésus-Christ, telle qu'il a établie dans les derniers jours, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Les mots un jour sont dangereux quand ils signifient pas aujourd'hui. Un jour je me repentirai. Un jour je lui pardonnerai. Un jour je parlerai de l'église à mon ami. Un jour je commencerai à payer la dîme. Un jour je retournerai au temple. Un jour. Les Écritures parlent clairement du danger de remettre à plus tard. C'est celui de nous apercevoir que nous n'avons plus le temps. Le Dieu qui nous donne chaque jour comme un trésor réclamera des comptes. Nous pleurerons, et il pleurera. Si nous avons eu l'intention de nous repentir et de le servir lors de lendemains qui ne sont jamais venus, ou si nous avons rêvé de jours passés où nous n'avons pas saisi l'occasion d'agir, aujourd'hui est un don précieux de Dieu. La pensée « un jour je le ferai » peut nous voler des occasions d'agir et les bénédictions de l'éternité. On trouve un avertissement solennel et une recommandation dans le livre de Mormon. Et maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, puisque vous avez eu tant de témoignages, je vous supplie donc de ne pas différer le jour de votre repentir jusqu'à la fin. Car après ce jour de vie qui nous est donné pour nous préparer pour l'éternité, voici, si nous ne faisons pas meilleur usage de notre temps pendant que nous sommes dans cette vie, alors vient la nuit de ténèbres où aucun travail ne peut être accompli. Vous ne pouvez pas dire lorsque vous êtes amené à cette crise affreuse, « Je vais me repentir, je vais retourner à mon Dieu ». Non, vous ne pouvez pas le dire. Car ce même esprit qui possède votre corps au moment où vous quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel. Puis Amulek nous prévient que si nous reportons à plus tard notre repentir et le moment de servir, cela risque d'amener l'Esprit du Seigneur à se retirer de nous. Mais avec l'avertissement, il donne l'espoir suivant. Et cela, je le sais, parce que le Seigneur a dit qu'il ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints, mais c'est dans le cœur des justes qu'il demeure, oui. Et il a dit aussi que les justes s'assiront dans son royaume pour ne plus en sortir, mais leurs vêtements seront blanchis par le sang de l'agneau. Les Écritures sont remplies d'exemples de serviteurs sages de Dieu qui ont chéri le jour où ils vivaient et choisi de faire ce qui apporterait la purification. Josué est l'un d'eux. Il a dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » En servant Dieu, nous favorisons la compagnie du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit purifie des péchés. Même le Sauveur, qui était sans péché, a montré l'exemple de la nécessité de ne pas repousser à plus tard. Il a dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » En tant que Sauveur ressuscité, il est aujourd'hui et à jamais la lumière du monde. C'est lui qui nous invite à aller à lui et à le servir sans délai. Voici l'encouragement qu'il nous adresse à vous et à moi. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent de bonne heure me trouvent. C'est aussi vrai pour une journée que pour une vie. Une prière et une étude des Écritures le matin pour savoir ce que nous devons faire pour le Seigneur peuvent donner la direction d'une journée. Nous pouvons savoir quelle tâche de toutes celles que nous pourrions choisir est la plus importante pour Dieu et donc pour nous. J'ai appris qu'une telle prière reçoit toujours une réponse si nous demandons et méditons avec la soumission d'un enfant, prêt à agir sans délai pour accomplir même le plus humble service. Souvent, faire ce qui est le plus important, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas censé l'être. L'objectif de Dieu dans la création était de nous mettre, de permettre de faire nos preuves. Le plan nous était exposé dans le monde des esprits avant notre naissance. Nous y avons été suffisamment vaillants pour nous qualifier, pour avoir la possibilité de choisir ici-bas, malgré la tentation, de nous préparer pour la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Nous nous sommes réjouis de savoir que l'épreuve serait d'obéir fidèlement, même quand ce ne serait pas facile. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Nous savions que l'épreuve allait être très difficile, mais nous étions joyeux parce que nous avions confiance en notre réussite. Cette confiance venait de notre connaissance que Jésus-Christ viendrait dans le monde pour nous sauver. Il vaincrait la mort. Il nous permettrait d'être purifiés de nos péchés à condition que nous qualifions pour bénéficier des effets de son expiation. Nous connaissions aussi quelques faits rassurants sur ce qu'il faudrait pour recevoir la purification dont nous aurions besoin. Tout ce que la purification allait requérir, recevoir le baptême par l'autorité, recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains de détenteurs autorisés de la prêtrise, nous souvenir de Jésus-Christ et ainsi avoir son Esprit avec nous, et puis respecter ses commandements. Tout cela serait possible pour le plus humble d'entre nous. Cela ne demanderait pas une intelligence supérieure, ni des richesses, ni une longue vie. Et nous savions que le Sauveur nous attirerait à lui et aurait le pouvoir de nous aider quand l'épreuve serait difficile et quand la tentation de reporter à plus tard serait grande. Alma, le grand prophète, a décrit comment le Christ a obtenu cette capacité. Il ira, subissant les souffrances et des afflictions et des tentations de toutes espèces, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. Nous aurons tous besoin de son aide pour éviter le drame de reporter à plus tard ce que nous devons faire dès maintenant pour avoir la vie éternelle. Pour la plupart d'entre nous, la tentation de reporter à plus tard viendra de l'un ou de l'ensemble de deux sentiments. Ils sont totalement opposés. L'un est l'autosatisfaction de ce que nous avons déjà accompli. L'autre est le découragement face à la nécessité de faire plus. L'autosatisfaction est un danger pour nous tous. Elle peut être ressentie par des jeunes naïfs qui pensent qu'il y aura amplement de temps à l'avenir pour les choses spirituelles. Ils peuvent penser qu'ils ont déjà fait assez, vu le peu de temps qu'ils ont vécu. Je sais par expérience que le Seigneur peut aider ces jeunes à voir qu'ils sont maintenant au milieu des choses spirituelles. Jeunes, il peut vous aider à voir que des camarades de classe vous observent. Il peut vous aider à voir que leur avenir éternel dépend de ce qu'ils vous voient faire ou ne pas faire. Vos simples remerciements pour la bonne influence qu'ils ont sur vous peuvent les élever plus que vous ne l'imaginez. Quand vous demandez à Dieu, il peut vous révéler, et il le fera, les occasions d'édifier pour lui des personnes qu'il a mises autour de vous depuis votre petite enfance. L'autosatisfaction peut même toucher l'adulte expérimenté. Mieux vous servez, plus longtemps vous le faites, plus le tentateur peut placer dans votre esprit le message suivant. Tu as mérité de te reposer. Vous avez peut-être été deux fois présidente de la primaire de votre petite branche, ou vous avez peut-être travaillé longtemps et dur pour votre mission et vous avez fait beaucoup de sacrifices pour servir, ou vous êtes peut-être le pionnier de l'Église là où vous habitez. Vous pouvez vous dire, pourquoi ne pas laisser les nouveaux servir? J'ai fait ma part. La tentation sera de croire que vous recommencerez à servir un jour. Le Seigneur peut vous aider à voir le danger de prendre du repos parce que vous avez le sentiment d'avoir assez fait. Il m'a aidé en me faisant avoir une conversation avec l'un de ses serviteurs âgés. Il était faible, le corps amoindri par des décennies de travail fidèle et par la maladie. Son médecin ne lui permettait plus de sortir de chez lui. À sa demande, je lui ai fait rapport d'un voyage que j'avais fait au service du Seigneur dans plusieurs pays, avec des dizaines de réunions et de nombreux entretiens, aidant des personnes et des familles. Je lui ai dit que les gens avaient exprimé leur reconnaissance pour lui et ses nombreuses années de service. Il m'a demandé si j'aurais bientôt une autre tâche. Je lui ai parlé d'un autre long voyage à venir. Il m'a surpris et il m'a vacciné contre l'autosatisfaction, j'espère pour toujours. Quand il m'a agrippé le bras en disant « Oh, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous ». Il est dur de savoir quand nous avons suffisamment fait pour que l'expiation change notre nature et nous qualifie pour la vie éternelle. Et nous ne savons pas combien il nous faudra de jours de service pour que ce changement intervienne. Mais nous savons que nous aurons suffisamment de jours si nous ne les gâchons pas. Voici la bonne nouvelle. Et les jours des enfants des hommes furent prolongés selon la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent se repentir tandis qu'ils étaient dans la chair. C'est pourquoi leur état devint un état de mise à l'épreuve, et leur temps fut prolongé selon les commandements que le Seigneur Dieu a donnés aux enfants des hommes. Cette assurance donnée par le Maître peut aider ceux d'entre nous qui se sentent écrasés par leur situation. Dans les épreuves les plus dures, tant que vous avez le pouvoir de prier, vous pouvez demander à Dieu qui vous aime. S'il te plaît, laisse-moi servir aujourd'hui. Peu importe le peu de choses que je suis capable de faire, fais-moi juste savoir ce que je peux faire. J'obéirai aujourd'hui. Je sais que je peux. Avec ton aide. Ce qui vous sera doucement demandé pourra être une chose aussi simple que de pardonner à quelqu'un qui vous a offensé. Vous pouvez le faire sur un lit d'hôpital. Cela peut être d'aller aider quelqu'un qui a faim. Vous pouvez vous sentir écrasé par votre propre pauvreté et par les tâches de la journée. Mais si vous décidez de ne pas attendre, d'avoir plus de force et plus d'argent, et si vous priez pour avoir le Saint-Esprit en partant, vous saurez en arrivant ce qu'il faut faire et comment aider quelqu'un encore plus pauvre que vous. Vous apprendrez peut-être en arrivant qu'il priait et attendait que quelqu'un comme vous vienne au nom du Seigneur. À ceux qui sont découragés par leur situation et qui sont donc tentés de penser qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur aujourd'hui, je fais deux promesses. Aussi difficiles que semblent les choses aujourd'hui, cela ira mieux demain si vous choisissez de servir le Seigneur de tout votre cœur aujourd'hui. Votre situation ne s'arrangera peut-être pas de toutes les manières que vous désirez, mais vous aurez reçu une force nouvelle pour porter vos fardeaux et une confiance nouvelle que, lorsque vos fardeaux deviennent trop lourds, le Seigneur, que vous avez servi, portera ce que vous ne pouvez pas porter. Il sait comment. Il s'est préparé il y a longtemps. Il a eu nos infirmités et nos chagrins quand il était dans la chair, afin de savoir comment nous secourir maintenant. L'autre promesse que je vous fais est qu'en choisissant de le servir aujourd'hui, vous ressentirez son amour et votre amour pour lui grandira. Vous vous souvenez peut-être de l'écriture suivante. Je vous le dis, je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur, afin que vous entendiez et connaissiez la voie par laquelle vous serez appelé, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Car comment un homme connaît-il le maître qui n'a pas servi, et qui est un étranger pour lui, et est loin des pensées et des intentions de son cœur? En le servant aujourd'hui, vous apprendrez à mieux le connaître. Vous ressentirez son amour et son estime. Vous ne voudriez pas repousser la réception de cette bénédiction. Et ressentir son amour vous ramènera à son service, effaçant à la fois l'autosatisfaction et le découragement. En le servant, vous apprendrez à mieux connaître la voix qui vous appellera. Quand vous irez vous coucher à la fin d'une journée, les paroles suivantes peuvent vous revenir à l'esprit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je prie pour que cette bénédiction, en ce jour, chaque jour, et pour toute notre vie, nous parvienne. Je sais que notre Père Céleste vit et répond à nos prières. Je sais que Jésus est le Christ vivant, le Sauveur du monde, et que nous pouvons choisir de ressentir de la joie et de la paix à son service aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, amen.
La chrétienté célèbre la vie et le ministère de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Père éternel. Des églises chrétiennes professant une grande diversité de doctrines parsèment le monde. Quand Courtney, 14 ans, fille d'un président de mission, est entrée en première année de lycée, ses camarades de classe lui ont demandé si elle était chrétienne. Ils se sont moqués quand elle a répondu qu'elle était mormone, comme on appelle couramment les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. De retour chez elle, elle a demandé à sa mère, « Maman, est-ce que nous sommes chrétiens ?» J'ai passé mon enfance dans une famille qui était pratiquante dans une autre confession chrétienne. J'ai été baptisé dans l'église en question peu après ma naissance. Notre famille allait chaque semaine à l'église. Pendant de nombreuses années, mes frères et moi, nous avons même aidé les pasteurs qui dirigeaient nos services du dimanche. On m'a enseigné l'importance de la prière en famille. Et notre famille priait ensemble chaque jour. J'envisageais d'exercer un jour le ministère à plein temps dans mon église. Nous n'avions pas l'ombre d'un doute que nous pouvions nous définir comme chrétiens dévots. Mais quand je suis allé à l'université, j'ai fait la connaissance des membres et des enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une confession chrétienne centrée sur le Sauveur. J'ai commencé à entendre parler de la doctrine du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ en ces derniers jours. J'ai appris des vérités que j'ignorais auparavant, qui ont changé ma vie et ma conception de l'Évangile. Après beaucoup d'études, de prières et de foi, j'ai décidé d'adopter les belles vérités rétablies qui ne se trouvaient que dans cette Église. La première vérité rétablie que j'ai apprise a été la nature de la divinité. La vraie doctrine chrétienne que la divinité se compose de trois êtres séparés était connue dans les temps bibliques. À plusieurs reprises, Dieu a rendu témoignage de Jésus, son Fils unique. Il a dit, lors du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus lui-même a témoigné de Dieu, son Père, quand il a dit, « Or, la vérité éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous apprenons qu'après la mort et la résurrection de Jésus, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu. » Quel témoignage spectaculaire de la divinité de celui rendu par ce disciple du Christ. La connaissance de Dieu et du fait qu'il se distingue physiquement de son Fils et du Saint-Esprit s'est perdue après la mort du Christ et de ses apôtres. La confusion et les enseignements faux au sujet de la divinité découlent du credo des conciles de Nicée et de Constantinople, où les hommes ont déclaré qu'au lieu de trois êtres séparés, la divinité était trois personnes en un seul Dieu ou la Trinité. Ces credos des hommes m'ont donné autant de mal qu'aux réformateurs protestants chrétiens. Je ne comprenais rien aux enseignements sur la Trinité qui m'ont été donnés dans ma jeunesse. Mais quand on m'a présenté les vérités glorieuses de la première vision donnée à Joseph Smith, le prophète, mes yeux se sont finalement ouverts et j'ai enfin compris la vérité sur la nature de Dieu, le Père éternel, et son Fils unique. Joseph a dit, « Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » Cette vision céleste a rétabli la connaissance merveilleuse et pourtant claire et précieuse de Dieu et de son Fils, dissipant sur le champ les enseignements que j'avais reçus sur la Trinité. Je sais que les révélations venues du ciel ont remplacé les erreurs grossières des enseignements humains concernant la divinité. Je sais que Dieu est notre Père céleste. Son Fils, Jésus-Christ, est mon Sauveur. Le Saint-Esprit témoigne du Père et du Fils. J'exprime ma gratitude profonde à Dieu de ce qu'il a représenté le Seigneur Jésus-Christ ressuscité à l'humanité en ces derniers jours. Le Sauveur vit, il a été vu, il a parlé, il dirige l'œuvre de son Église par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes d'aujourd'hui. Quelle vérité magnifique il a enseignée, lui, le bon berger, qui continue à s'occuper de ses brebis. La deuxième vérité rétablie que j'ai apprise comme ami de l'Église a été qu'il y a réellement des Écritures et des révélations supplémentaires. Le prophète Ésaïe a eu la vision d'un livre dont il a proclamé qu'il faisait partie d'une œuvre merveilleuse et d'un prodige. Je témoigne que le livre de Mormon, un témoignage de Jésus-Christ, est ce livre. C'est un document sacré écrit par des prophètes de Dieu pour persuader tous les hommes d'aller au Christ. Et il continue à révéler l'Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude. Le livre de Mormon parle de prophètes et d'autres membres fidèles de l'Église qui ont pris sur eux le nom du Christ, avant même la naissance du Sauveur. Ce livre montre le Christ ressuscité, enseignant aux hommes ce qu'ils doivent faire pour trouver la paix dans cette vie et le salut éternel dans le monde à venir. Qu'est-ce qui pourrait être plus chrétien que de chercher à prendre son nom sur nous et à suivre sa recommandation de devenir comme lui? Le président Hinckley a déclaré, « Je ne comprends pas pourquoi le monde chrétien n'accepte pas ce livre. » J'ai lu le livre de Mormon pour la première fois à l'âge de 21 ans. J'ai ensuite demandé à Dieu s'il était vrai. Sa véracité m'a été manifestée par le pouvoir réconfortant du Saint-Esprit. Je sais que le livre de Mormon est un deuxième témoignage de Jésus-Christ. Je joins mon témoignage à celui des prophètes de ce livre sacré pour déclarer que nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ. Je suis profondément reconnaissant de chacune des paroles qu'il a prononcées et de chacune des paroles qu'il continue à prononcer qui étanchent notre soif avec de l'eau vive. Une autre vérité rétablie de l'Évangile que j'ai apprise a été le rétablissement de l'autorité de la prêtrise ou du pouvoir d'agir au nom de Dieu. Des prophètes et apôtres d'autrefois tels qu'Élie, Moïse, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean ont été envoyés à notre époque par Dieu et le Christ pour rétablir la sainte prêtrise de Dieu. Tout détenteur de la prêtrise dans cette Église peut faire remonter son autorité dans la prêtrise directement à Jésus-Christ. Les hommes possèdent maintenant les clés pour établir l'Église de sorte que nous pouvons aller au Christ et participer à ses ordonnances éternelles du salut. Je témoigne que cette Église est celle de Jésus-Christ, la seule Église autorisée, ayant l'autorité véritable de la prêtrise pour exercer les clés du salut par l'intermédiaire d'ordonnances sacrées. Courtney demandait, « Maman, est-ce que nous sommes chrétiens ?» comme membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, vous êtes chrétien et moi aussi. Je suis un chrétien dévot qui a la chance extrême d'avoir une connaissance et des bénédictions plus grandes depuis ma conversion à l'Église rétablie. Ces vérités définissent cette Église comme ayant la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Comme d'autres membres de l'Église, je comprends maintenant la vraie nature de la divinité. J'ai accès à des Écritures et à des révélations supplémentaires. Je peux avoir part aux bénédictions de l'autorité de la prêtrise. Oui, Cotny, nous sommes chrétiens et je témoigne de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brethren and sisters,
chers frères et sœurs, je suis reconnaissant que nous vivions une époque où il y a des apôtres et des prophètes sur la terre pour nous inspirer et nous guider. Je témoigne que le président Hinckley est véritablement un prophète de Dieu, au même titre que Moïse, Abraham et tous les autres prophètes depuis le commencement du monde. Je suis reconnaissant des instructions qu'il nous a données ce matin et de ce que nous pourrons de nouveau l'entendre à la fin de cette conférence. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux jeunes gens et jeunes filles de l'Église, ainsi qu'à leurs parents et aux dirigeants des jeunes. Je m'adresse également aux jeunes adultes seuls qui ont tant de talents, de possibilités et de potentiels formidables pour le service dans le royaume. Le président Hinckley a dit à propos de cette génération, il n'y a jamais eu d'époque comme celle-ci. Quelle chance de vivre à cette période de l'histoire du monde. Il n'y a encore jamais eu une telle génération de jeunes. Vous êtes vraiment une génération élue. Fin de citation. Vous, jeunes de Sion, avez une grande œuvre à faire. Vous avez reçu tous les talents et toutes les occasions, où que vous viviez, de faire ce que votre Père Céleste attend de vous. Je prie pour que ce que je vais dire cet après-midi vous y aide. En février 1952, une jeune fille du nom de Hannah Last Cornaby fut baptisée à Yarmouth, en Angleterre. Ce ne fut pas l'expérience sereine et respectueuse que la plupart connaissent. Elle la rapporte en ces termes. Nous avons trouvé la maison entourée d'émeutiers, au milieu desquels nous avons eu du mal à nous frayer un chemin. Nous n'avions pas encore atteint le bord de l'eau que toute la horde était sur nous. Mon mari m'a baptisé au milieu d'une pluie de pierres et de cris. Et malgré la volée de pierres qui sifflait autour de nous, pas une ne nous a touchés. Nous sommes rentrés chez nous sans encombre, en remerciant Dieu de notre délivrance miraculeuse. Sa vie par la suite ne fut pas facile. Des années plus tard, elle pouvait écrire, « Qui donc est au Seigneur ? Voici venu le temps de demander sans père, « Qui donc est au Seigneur ?» Bien que ce soit là les paroles d'un cantique que nous ne chantons pas très souvent, c'est devenu un de mes préférés, à cause de l'engagement vis-à-vis de la vérité, et de ce qui est juste. En vérité, c'est une question qui devrait être dans l'esprit de chaque jeune homme et de chaque jeune fille dans le monde. Qui donc est au Seigneur ? Notre réponse retentissante devrait être « Moi ». C'était la question que Néphi avait à l'esprit quand le Seigneur, par son père Léhi, leur commanda à ses frères et à lui de retourner à Jérusalem prendre les plaques d'airain. Quand Laman et Lemuel murmurèrent, la question se posa à Néphi, « Qui donc est au Seigneur ?» À quoi il répondit, « Moi. » En ces termes, « J'irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé. Car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes, sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. » Ce fut pareil pour le jeune David dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous comment, jeune berger, il rendait visite à ses frères sur le front. Tandis qu'il était là, il entendit les provocations des géants philistins Goliath à l'adresse des hommes d'Israël, défiant en combat. Et tous les guerriers d'Israël avaient peur d'affronter le géant. Leur réponse à la question « Qui est avec le Seigneur ?» n'a pas été « Moi ». Mais « Qui ça ? Moi ?» Mais pas le jeune David. Ne prenant que des pierres et sa simple fronde de berger, il affronta le géant en disant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et à ce moment-là, David ne marcha pas timidement, mais courut à la rencontre du géant. Et à cause de sa foi en Dieu, Goliath fut tué et Israël fut vainqueur. Mes jeunes frères et sœurs, partout où je me rends, je rencontre des jeunes nobles, tout comme vous, qui affrontent constamment des Goliaths modernes sous forme de tentations, qui cherchent à nous faire violer nos alliances et les principes que le Seigneur nous a donnés. Cela devient encore bien plus important quand vous êtes entouré quotidiennement de grossièreté, d'immoralité socialement admise, de manque de pudeur, de pornographie, d'autres sujets inconvenants dans les médias, notamment à la télévision et sur Internet, et l'accès généralisé à la drogue et à l'alcool. En un mot, il ne se passe pas un jour qu'il nous soit demandé, sous une forme ou sur une autre, qui donc est au Seigneur ? J'ai deux suggestions simples à faire pour vous aider à préparer votre réponse à cette question. D'abord, n'oubliez jamais qui vous êtes. La vérité toute simple est dans le cantique des enfants que beaucoup d'entre nous ont appris à la primaire. Je suis enfant de Dieu. Et dans sa sagesse et sa bonté, notre Père Céleste ne nous a pas simplement envoyés ici pour nous laisser seuls. Il nous a donné des guides spécifiques pour nous aider à accomplir ce qu'il attend de nous. Il nous a donné une famille pour aider, nous aimer et nous instruire. Il nous a donné les prophètes vivants pour nous conduire. Il nous a donné, par la première présidence, les principes de la brochure « Joignez sur l'effort » avec cette promesse. Nous vous promettons que si vous respectez ces règles et vivez selon les vérités qui se trouvent dans les Écritures, vous pourrez accomplir l'œuvre de votre vie avec plus de sagesse et de compétence. Et vous pourrez supporter les épreuves avec plus de courage. Vous aurez l'aide du Saint-Esprit. Je garde toujours mon petit exemplaire de la brochure sur moi. Toujours. Et je vous invite à faire de même. Puis, quand vous attendez le bus ou que vous avez un moment, sortez-la, lisez-la et engagez-vous de nouveau à vivre ces principes. Je vous promets que si vous faites cela, vous connaîtrez le bonheur et la paix et que vous aurez le sentiment profond de votre valeur. N'oubliez pas que dans l'exercice de votre libre arbitre, vous n'êtes pas seul. Outre un Père Céleste bon et sage, il y a d'autres personnes qui prient pour que vous fassiez de bons choix. Quand j'étais jeune et je sortais avec une jeune fille ou avec des amis, je signalais toujours avec mon retour à la maison de mes parents. Habituellement, je frappais à la porte, je l'ouvrais et je disais « Je suis rentré !» Et puis j'allais au lit. Quand je faisais, la lumière du corridor tombait sur cet ange qui était ma mère, qui priait à genoux. Et en la voyant là, je savais pour qui elle priait. Je n'ai jamais oublié cette expérience. Et le fait de savoir que ma mère prie toujours pour moi aujourd'hui me soutient et me rappelle qui je suis et que je ne suis pas seul. Ma deuxième suggestion, apprenez à maîtriser vos pensées. Une partie du plan de bonheur que notre Père Céleste nous a donné et que nous avons été envoyés ici pour mettre mis à l'épreuve. Par conséquent, il y aura toujours des tentations. Notre tâche, le saint des derniers jours, est de respecter les commandements de Dieu malgré les tentations que Satan met sur notre chemin. Dans ma vie, j'ai constaté que c'est beaucoup plus facile quand nous pouvons maîtriser nos pensées. Et particulièrement, quand nous avons appris par cœur de la musique, des écritures et de la bonne poésie pour remplacer les pensées mauvaises qui nous viennent à l'esprit. Boyd Packer nous a conseillé d'apprendre par cœur un cantique, de sorte que, quand une pensée inconvenante nous vient à l'esprit, nous puissions la remplacer par un cantique. Je sais que cela marche. Un de mes amis qui a appliqué cette recommandation m'a expliqué « Un jour, j'ai quitté mon bureau pour le déjeuner. Deux rues plus loin, je me suis aperçu que j'avais fredonné ma chanson « Je suis enfant de Dieu ». En remontant le fil des événements sur les quelques centaines de mètres que j'avais parcourus, je me suis rendu compte qu'au moment où je traversais la rue en sortant du bureau, j'avais croisé une jeune femme incorrectement vêtue. Immédiatement, de manière inconsciente, les paroles de la musique et la musique de « Je suis enfant de Dieu » ont commencé à m'envahir l'esprit pour éloigner des pensées inconvenantes. Ce jour-là, mon ami a eu une grande leçon sur sa capacité de maîtriser ses pensées. George Albert Smith a donné un conseil excellent à ce sujet quand il a dit « Il y a une ligne de démarcation bien définie entre les territoires du Seigneur et le territoire du diable. Si vous restez du côté du Seigneur de la ligne, l'adversaire ne peut pas venir vous y tenter. » Mais si vous traversez la ligne pour aller du côté du diable, vous êtes sur son territoire et il travaillera sur vous pour vous amener le plus loin possible de cette ligne, sachant qu'il ne peut réussir à vous détruire qu'en vous maintenant à l'écart de l'endroit où se trouve la sécurité. Le thème de la soirée d'activité pour 2007 contient une promesse pour les gens qui écoutent ce sage conseil, que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors ton assurance viendra grande en la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit sera ton compagnon constant. Je vous témoigne que Dieu vit. Je sais que nous sommes ses enfants, qu'il connaît notre nom et que nous ne sommes pas seuls quand nous prenons ces décisions importantes. Chaque jour de votre vie, vous ferez des choix dont le résultat vous conduira d'un côté ou de l'autre de cette ligne. Je lance donc cette invitation à tous les jeunes qui m'entendent. À tous les jeunes de noble naissance du monde entier, menez votre vie de telle manière que quand vous devez choisir entre le bien et le mal, et que tout au fond de vous, vous pouvez entendre la question « Qui donc est au Seigneur ?», vous soyez prêts à répondre de toutes vos forces « Moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. »
Thank you, brethren. The choir and congregation will now
sing. Merci, frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter, vrais disciples du Seigneur. Après ce cantique, Yoshihiko Kikuchi, des 70, nous adressera la parole. Il sera suivi par Dieter F. Uchtdorf et Russell M. Nelson du Collège des 12 apôtres. Maintenant, le chœur et l'assemblée vont chanter.
This is the 177th annual.
Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Je voudrais parler de la loi de la dîme. Dans le livre de Malachie, le Seigneur demande « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez ?» Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ? » Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme est un commandement si important que quand le Seigneur est apparu sur le continent américain après sa résurrection, il a répété ces mêmes paroles exactement. Le Seigneur a dit à notre époque, ceux qui auront été ainsi dîmés paieront annuellement un dixième de tous leurs revenus. Dans le livre du Lévitique, le Seigneur a déclaré trois fois que la dîme est consacrée à l'Éternel. Le Seigneur a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Beaucoup d'entre nous mettent le Seigneur à l'épreuve, mais certains ne le font pas. Ces 10 pommes appartiennent toutes au Seigneur. Il nous demande de ne lui rendre qu'un dixième. Est-ce que vous offrez la petite part? Il vous reste 90% des pommes. Êtes-vous disposé à donner la petite part? Avez-vous honte ou essayez-vous de camoufler, de cacher la portion congrue, puis de l'offrir au Seigneur? Nous voulons que notre offrande soit complète et pure. Il a dit, voici, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé, et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. Il y a quelques années, j'ai reçu pour tâche de réorganiser le pieu de Carré en Idaho. L'avion a atterri à Twin Falls et Roy Hubert, le président de Pieu qui avait si bien servi dans son appel, est venu me chercher, m'a conduit jusqu'à chez lui. Pendant le trajet, j'ai demandé, outre la réorganisation du pied, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous et vos saints? Il a dit, oh, nous avons une grande sécheresse depuis quelques années. Mais cette année, elle est particulièrement grave et de nombreux agriculteurs sont partis chercher du travail ailleurs. J'étais profondément touché pour nos membres fidèles qui aiment tant le Seigneur et l'Église, mais qui perdaient leur ferme. Un jeune évêque, R. Spence Ellsworth, qui a été appelé comme nouveau président de Pieu. Pendant la session générale du dimanche, je pensais beaucoup aux conséquences de la sécheresse. Pendant que je parlais, j'ai eu une forte impression. Je me suis senti poussé à leur demander de faire ce qui suit. 1. Payer fidèlement une dîme honnête, jeunes et moins jeunes. 2. Faire régulièrement des prières personnelles et familiales. 3. Étudier chaque jour les Écritures avec dévotion, personnellement et en famille. 4. Sanctifier le jour du sabbat avec reconnaissance. 5. Aller au temple avec reconnaissance en y faisant des actions de grâce et en accomplissant l'œuvre du temple. 6. Soutenir et suivre les nouveaux dirigeants. 7. Faire un jeûne dans tout le pieu en incluant tous les non-membres concernés qui voudraient y participer et demander avec ferveur les bénédictions des cieux. Pendant les 2 jours qui ont suivi la conférence de pieu, beaucoup de membres ont semé avec une foi complète, bien qu'on n'ait pas annoncé de pluie. Le mercredi, sous la direction du président Ellsworth, tout le pieu a jeûné. Pendant la semaine, de nombreux membres, ainsi que les dirigeants et leurs conjoints, sont allés au temple de Boise en Idaho et ont fait des prières d'action de grâce. Pendant que ces saints fidèles étaient au temple, il a commencé à pleuvoir sur toute la région. La météo n'annonçait aucune précipitation pour les prochaines semaines, mais le samedi suivant, une bonne pluie est tombée pendant quelques jours. C'est arrivé à la fin du mois d'avril. Il a neigé assez dans les montagnes, ce qui a fourni suffisamment d'eau. À Dietrich et à Richfield, il manquait 30% d'eau dans le réservoir local. Mais après le jeûne, il était presque plein. Les réserves d'eau de Carré sont passées d'environ de 44% à plus de 100%. Pendant le reste de la saison de végétation, du fait du surcroît de foi démontré par les membres du pieu de Carré par quelques jeûnes supplémentaires, par le paiement d'une dîme honnête et par l'assistance plus fréquente au temple, le Seigneur a entendu et exaucé leurs prières. Il a gelé tard cette année-là, de sorte que les paysans ont pu moissonner des céréales, récolter des betteraves à sucre, du trèfle, des pommes de terre, etc. À partir de ce jour-là et chaque année qui a suivi, ils font des prières d'action de grâce Et à cause de cette tendre miséricorde, le Seigneur continue de les bénir. Dans le livre des Chroniques, le Seigneur dit, « Si mon peuple invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. » Et je guérirai son pays. Le paiement honnête et complet de la dîme nous conduit au temple. Devenons dignes d'entrer dans sa sainte maison. Le président Hinckley a dit, ce n'est pas tant une question d'argent que de foi. Je vous exhorte, chacun de vous, à mettre le Seigneur à l'honneur à ce sujet important. La semaine dernière, au cours de la réunion générale de jeunes filles, le président Hinckley a dit, on paye la dîme avec de l'argent, mais ce qui est plus important, la paix avec la foi. C'est une affaire d'engagement. La terre, et cela inclut notre foi, appartient au Seigneur. La terre, et cela inclut notre vie, appartient au Seigneur. Il nous permet d'utiliser tout ce qui se trouve sur terre. Il ne nous demande de lui rendre qu'un dixième. La dîme est un signe de reconnaissance, d'obéissance, de gratitude, et un signe de notre bonne volonté et de notre consécration. Payer la dîme de bon gré donne un cœur honnête et pur. Le paiement de la dîme développe notre foi et notre amour pour le Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est un jour de sacrifice et un jour où mon peuple doit être dîmé. Montrons notre foi. Montrons notre volonté d'obéir. Je vous promets, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que si vous montrez votre foi et payez la dîme, il vous ouvrira les écluses des cieux. Je sais que notre Père céleste vit. Par conséquent, il vous bénira. Jésus-Christ est le Sauveur. Joseph a vu notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Cette Église est son Église. Gordon B. Hinckley est le prophète vivant de Dieu. Il vous demande de venir souvent au temple. C'est mon prière, humble au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Frères et sœurs, mes chers amis, pendant ma formation pour devenir pilote de ligne, j'ai dû apprendre la navigation aérienne sur de longues distances. Les vols au-dessus d'immenses océans, le survol de vastes déserts et les liaisons entre les continents demandent une planification soigneuse pour un atterrissage sûr à la bonne destination. Certains de ces vols sans escale peuvent durer jusqu'à 14 heures et couvrir près de 16 000 km. Il existe un point de décision important au cours de si longs vols. Il est communément appelé le point de non-retour. Jusqu'à ce point, l'avion a suffisamment de carburant pour faire demi-tour et rentrer en toute sécurité à son aéroport de départ. Au-delà de ce point de non-retour, le pilote n'a plus le choix et doit continuer sa route. C'est pourquoi ce point est souvent appelé le point de non-retour. Existe-t-il des points de non-retour dans notre vie? Satan, le père de tous les mensonges, le père des querelles, l'auteur de tout péché et l'ennemi de Dieu, utilise les forces du mal pour nous convaincre que ce concept s'applique toutes les fois que nous avons péché. Les Écritures l'appellent l'accusateur parce qu'il veut que nous croyions que nous ne pouvons plus recevoir le pardon. Satan veut que nous pensions que lorsque nous avons péché, nous avons dépassé le point de non-retour, qu'il est trop tard pour changer de cap. Dans notre monde si beau mais également troublé, il est tristement vrai que cette attitude est une source de grand chagrin, de peine et de détresse dans les familles, dans les mariages et chez les personnes. Satan essaye de contrefaire l'œuvre de Dieu Et en procédant de la sorte, il en trompe beaucoup. Pour que nous perdions espoir, que nous nous sentions malheureux comme lui, et croyons que nous ne pouvons plus recevoir le pardon, Satan peut employer faussement des mots tirés des Écritures, qui soulignent la justice de Dieu, afin de montrer qu'il n'y a pas de miséricorde. Quel est le plan du Seigneur pour que nous puissions revenir sains et saufs auprès de lui? La protection contre l'influence du mal se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a accompli une expiation parfaite pour le genre humain. C'est le message d'amour, d'espoir et de miséricorde qui annonce qu'il y a réconciliation entre l'homme et Dieu. Le péché est la transgression volontaire de la loi divine. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est le don de Dieu à ses enfants pour corriger et surmonter les conséquences du péché. Dieu aime tous ses enfants et il ne cessera jamais de nous aimer et d'espérer pour nous. Le plan de notre Père Céleste est clair et ses promesses sont merveilleuses. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Christ est venu pour nous sauver. Si nous avons pris une mauvaise direction, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ peut nous donner l'assurance que le péché n'est pas un point de non-retour. Un retour sûr est possible si nous suivons le plan de Dieu pour notre salut. Nous avons reçu ce plan de la plus haute autorité qui soit dans l'univers, Dieu lui-même, notre Père Céleste. Ce plan a été préparé avant la fondation du monde. C'est un magnifique plan de bonheur, un plan de miséricorde, un plan de rédemption, un plan de salut. Il nous permet de connaître une existence physique avec la mortalité, qui est une période de mise à l'épreuve, puis de retourner dans la présence de Dieu et de vivre dans le bonheur et la gloire éternelle. C'est expliqué dans la doctrine de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Le fait de suivre ce plan a des conséquences éternelles merveilleuses pour chacun de nous, pour nos familles, pour les générations à venir et même pour les générations passées. Ce plan comporte la réconciliation et le pardon divin. Comment le pardon divin est-il possible? Nous reconnaissons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous déclarons aussi avec fermeté que le repentir et le pardon peuvent être aussi réels que l'est le péché. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ rend chacun responsable de ses propres péchés. Nous surmonterons les conséquences du péché individuel en sollicitant les bénédictions et les avantages de l'expiation. Le président David O'Mackey a dit, « Tout principe et ordonnance de l'Évangile de Jésus-Christ est important, mais rien n'est plus essentiel au salut de la famille humaine que le principe agissant divin et éternel du repentir. Car le salut ne parvient à aucun de ceux-là, si ce n'est par le repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le repentir en soi qui sauve l'homme. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Ce n'est pas par notre changement sincère et honnête de comportement que nous sommes sauvés seulement, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Mais le repentir véritable est la condition requise pour que le pardon divin puisse entrer dans notre vie. Le véritable repentir transforme la nuit la plus sombre en un jour brillant. En quoi consiste le vrai repentir? Notre foi en Jésus-Christ doit être forte pour que nous puissions nous repentir. Notre foi doit inclure une idée correcte de la personnalité de Dieu, de sa perfection et de ses attributs. Si nous croyons que Dieu connaît toutes choses, qu'il est aimant, qu'il est miséricordieux, alors pour notre salut, nous pourrons mettre notre confiance en lui sans la moindre hésitation. La foi au Christ changera nos pensées, nos croyances et nos comportements qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Le véritable repentir nous ramène à faire ce qui est juste. Pour nous repentir sincèrement, nous devons reconnaître nos péchés, éprouver du remords ou une tristesse selon Dieu, et les lui confesser. Si nos péchés sont graves, nous devons aussi les confesser à notre dirigeant de la prêtrise habilité. Nous devons demander pardon à Dieu et faire tout ce que nous pouvons pour réparer le mal que nous avons pu causer. Le repentir signifie un changement de cœur et d'esprit, c'est-à-dire nous arrêter de faire ce qui est mal et de commencer à faire ce qui est bien. Cela apporte une attitude nouvelle vis-à-vis de Dieu, de nous-mêmes et de la vie en général. Quels sont les fruits du pardon? Le vrai repentir est une bénédiction dans notre vie grâce aux effets de l'expiation. Nous ressentons le pardon de Dieu et sa paix, et notre culpabilité, notre tristesse disparaissent. Nous jouissons de l'influence du Saint-Esprit en plus grande abondance, et nous sommes mieux préparés pour vivre avec notre Père Céleste. Le président Kimball a enseigné, l'essence du miracle du pardon est qu'il apporte la paix à l'âme précédemment anxieuse, agitée, frustrée, peut-être tourmentée. Dieu essuiera les larmes d'angoisse, de remords, de peur, et de culpabilité. Jésus a promis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alma, le prophète, qui a été ramené du péché au bonheur par le pardon divin, a déclaré, « La méchanceté n'a jamais été le bonheur. » Il avait connu l'amertume du péché, mais il a aussi parlé avec l'enthousiasme du bonheur qui suit le véritable repentir et le pardon. Oui, je te le dis, qu'il ne peut rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi doux que ma joie. Il conclut par ce conseil puissant et sage adressé à tous ceux qui recherchent le pardon. Et maintenant, je désire que tu ne laisses plus ces choses-là te troubler et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. Comment pouvons-nous savoir que Dieu nous a pardonnés? Le président Harold Bailey a dit, « Quand vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour surmonter vos erreurs et êtes intimement déterminé à ne jamais les recommencer, alors la paix de la conscience peut vous être accordée, ce qui vous permet de savoir que vos péchés vous ont été pardonnés. » Une fois que nous nous serons repentis, le Christ enlèvera le fardeau de la culpabilité pour nos péchés. Nous pouvons savoir par nous-mêmes que nous avons reçu le pardon et avons été rendus purs. Le Saint-Esprit nous en assurera. Il est le sanctificateur. Aucun autre témoignage du pardon ne peut être plus grand. Le Seigneur a dit, « Celui qui se repent et obéit au commandement du Seigneur sera pardonné. » Il a dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sois fidèle et diligent, et je t'entourerai des bras de mon amour. » Et il a déclaré, « Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » Satan essaiera de nous faire croire que nos péchés ne sont pas pardonnés, parce que nous pouvons nous en souvenir. Satan est un menteur. Il essaye de troubler notre vision et de nous écarter du chemin du repentir et du pardon. Dieu n'a pas promis que nous ne souviendrons plus de nos péchés. Le fait de nous en souvenir nous aidera à éviter de commettre les mêmes fautes. Mais si nous restons fidèles, le souvenir de nos péchés s'adoucira avec le temps. Cela fera partie du processus nécessaire à la guérison et la sanctification. Alma a rendu témoignage qu'après avoir imploré la miséricorde de Jésus, il pouvait toujours se souvenir de ses péchés, mais que cela ne le rendait plus malheureux et ne le torturait plus, parce qu'il savait qu'il avait reçu le pardon. Il est de notre responsabilité d'éviter tout ce qui pourrait ramener le souvenir des péchés passés. Lorsque nous continuons d'avoir le cœur brisé et l'esprit contrit, nous avons confiance que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Comment le fait d'accorder le pardon peut-il nous aider à recevoir le pardon? Jésus a enseigné une vérité éternelle quand il a appris à dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et qu'il a ajouté « Si vous vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ainsi donc, accorder le pardon est une condition préalable pour le recevoir. Pour notre bien, nous devons avoir le courage moral de pardonner et de demander pardon. Jamais l'âme n'est plus noble et plus courageuse que lorsque nous pardonnons. Cela inclut de se pardonner à soi-même. Nous avons tous l'obligation énoncée par Dieu d'offrir le pardon et la miséricorde et de nous pardonner mutuellement. Il y a dans nos familles, dans nos mariages, dans nos paroisses et dans nos pieux, dans nos collectivités et dans nos pays, il y a un très grand besoin de cette vertu chrétienne. Nous aurons la joie du pardon dans notre vie personnelle quand nous aurons la volonté d'accorder cette même joie libéralement aux autres. Pardonner du bout des lèvres ne suffit pas. Nous avons besoin de purger notre cœur et notre esprit des sentiments et des pensées amères et de laisser la lumière et l'amour du Christ y pénétrer. Alors, l'Esprit du Seigneur remplira notre âme de cette joie qui accompagne la paix divine de la conscience. Mes chers frères et sœurs, mes chers jeunes amis, quand le commandant d'un avion long courrier franchit le point de non-retour et que les vents de face sont trop forts ou que l'altitude de croisière est trop basse, il se peut qu'il soit contraint de se dérouter vers un aéroport autre que celui de sa destination. Il n'en est pas ainsi dans notre voyage à travers la vie qui nous ramène à notre foyer céleste. Où que vous en soyez de votre voyage de la vie, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez, il y a toujours possibilité de rentrer sain et sauf. Il y a toujours de l'espoir. C'est vous qui commandez votre vie et Dieu a préparé un plan pour vous ramener sain et sauf à lui, à votre destination divine. Le don du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ nous donne en tout temps et en tout lieu les bénédictions du repentir et du pardon. Grâce à ce don divin, la possibilité de revenir sain et sauf de la route désastreuse du péché est offerte à chacun de nous, à tout moment. J'en remercie notre Père céleste et j'en rends témoignage de tout mon cœur et de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ, amen.
L'année dernière, alors que nous rendions avec David S. Baxter en conférence, à une conférence de pied en voiture, nous sommes arrêtés dans un restaurant. Alors que nous retournions à notre voiture, une femme est venue vers nous en nous appelant. Nous étions étonnés de son aspect. Sa présentation, ou son manque de présentation, était ce que je pourrais poliment qualifier d'extrême. Elle nous a demandé si nous étions anciens dans l'Église. Nous avons dit que oui. Presque sans retenue, elle racontait l'histoire tragique de sa vie, baignant dans le péché. À seulement 28 ans, elle était maintenant malheureuse. Elle avait le sentiment de ne rien valoir, d'être sans but dans la vie. Tandis qu'elle parlait, la douceur de son âme a commencé à émerger. Suppliante et en larmes, elle a demandé s'il y avait un espoir pour elle, une manière de sortir de son trou désespérant. « Oui, avons-nous répondu, il y a de l'espoir. L'espoir est lié au repentir. Vous pouvez changer. Vous pouvez aller au Christ et être rendu parfait en lui. Nous lui avons vivement recommandé de ne pas remettre à plus tard. Elle a sangloté humblement et nous a remercié sincèrement. En continuant notre voyage, Frère Baxter et moi, nous avons réfléchi à cette expérience. Nous sommes souvenus du conseil donné à une âme sans espoir par Aaron. Si tu te repens de tous tes péchés et te prosternes devant Dieu et invoques son nom avec foi, alors tu recevras l'espérance que tu désires. Pour cette dernière session de conférence générale, je vais parler du repentir. Je le fais parce que le Seigneur a commandé à ses serviteurs d'appeler tous les peuples au repentir. Le Maître a rétabli son évangile pour apporter la joie à ses enfants, et le repentir est un élément crucial de cet évangile. La doctrine du repentir est aussi vieille que l'Évangile lui-même. Les enseignements bibliques de la Genèse à l'Apocalypse enseignent le repentir. Les leçons de Jésus-Christ durant son ministère dans la mortalité contiennent les avertissements suivants. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les références au repentir sont encore plus fréquentes dans le Livre de Mormon. Le Seigneur a donné le commandement suivant aux gens de l'Amérique ancienne. Et je vous le dis encore, vous devez vous repentir et être baptisé en mon nom et devenir semblable à un petit enfant où vous ne pouvez en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Avec le rétablissement de l'Évangile, notre Sauveur a encore souligné ce point de doctrine. Le mot « repentir » sous toutes ses formes figure dans 47 des 138 sections des doctrines et alliances. Que signifie se repentir? Commençons par une définition du dictionnaire. Se repentir, c'est se détourner du péché, éprouver du regret et du chagrin. Il n'est pas facile de se repentir du péché, mais le résultat en vaut la peine. Le repentir doit être accompli une étape à la fois. D'humbles prières faciliteront chaque étape essentielle. Les conditions requises pour obtenir le pardon sont d'abord de reconnaître, de regretter, puis de confesser. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. La confession doit être faite à la personne qui a été lésée. La confession doit être sincère et pas seulement une admission de culpabilité lorsque la preuve en est évidente. Si de nombreuses personnes ont été offensées, la confession doit être faite à toutes. Des actes qui entachent la position dans l'Église ou le droit à ses bénédictions doivent être promptement confessés à l'évêque, que le Seigneur a appelé comme juge ordinaire en Israël. L'étape suivante est la restitution. Réparer les dommages si possible. Puis viennent les étapes de la résolution de mieux faire et de ne pas recommencer. De se repentir d'un cœur pleinement résolu. Grâce à la rançon payée par l'expiation de Jésus-Christ, un pardon total est accordé au pécheur qui se repent et reste sans péché. Ésaïe a dit aux repentants, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » La grande importance que le Seigneur porte au repentir est évidente dans la section 19 des Doctrines et Alliances. Je te commande de te repentir. Repens-toi de peur que je ne te frappe du sceptre de ma parole, de ma fureur et de ma colère, et que tes souffrances soient atroces. Et tu ne sais pas combien elles sont atroces. Tu ne sais pas combien elles sont extrêmes. Oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Alors que le Seigneur insiste sur notre repentir, la plupart des gens n'en ressentent pas un si grand besoin. Ils se comptent parmi ceux qui essayent d'être bons. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. Pourtant, le Seigneur est clair. Son message est que tous ont besoin de se repentir. Pas seulement des péchés de commission, mais aussi des péchés d'omission. C'est le cas dans son avertissement aux parents. Et de plus, il y a des parents qui ont des enfants en Sion qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit. Le péché sera sur la tête des parents. La doctrine du repentir est beaucoup plus large que la définition du dictionnaire. Quand Jésus disait « repentir », ses disciples écrivaient ce commandement en grec avec le verbe « metanoeo ». Ce mot puissant a une grande signification. Le préfixe « meta » signifie « changement ». Le suffixe se rapporte à quatre termes grecs importants. « Nous » signifiant l'intelligence, « gnos » signifiant la connaissance, pneuma, signifiant l'esprit, et pnoé, signifiant respiration. Ainsi, quand Jésus dit « repentez-vous », il nous demande de changer notre compréhension, notre connaissance et notre esprit, et même notre respiration. Un prophète expliquait que ce changement de notre respiration signifie respirer en reconnaissant avec gratitude que c'est Dieu qui accorde chaque souffle. Le roi Benjamin a dit, « Si vous le serviez, lui qui vous a créé et vous préserve de jour en jour en vous prêtant le souffle d'un moment à l'autre, je dis, si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs inutiles. » Oui, le Seigneur nous a commandé de nous repentir, de changer nos voies, d'aller à lui et de lui ressembler davantage. Cela requiert un changement total. Alma aussi l'enseignait à son fils. Il a dit, « Apprends la sagesse dans ta jeunesse. » Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Oui, que les affections de ton cœur soit placé à jamais dans le Seigneur. Se repentir pleinement, c'est se convertir complètement au Seigneur Jésus-Christ et à sa sainte œuvre. Alma a enseigné ce concept quand il a posé les questions suivantes. Je vous demande, mes frères de l'Église, êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Ce changement survient quand nous sommes nés de nouveau, convertis et concentrés sur notre parcours vers le royaume de Dieu. Les fruits du repentir sont doux. Les convertis repentants s'aperçoivent que les vérités de l'Évangile rétablies gouvernent leurs pensées et leurs actions, forment leurs habitudes et forgent leur personnalité. Ils sont plus résistants et capables de se refuser toute impiété. De plus, les appétits incontrôlés, la dépendance de la pornographie et de la drogue, les passions débridées, les désirs charnels et l'orgueil impie diminuent lors d'une conversion complète au Seigneur et d'une détermination de le servir et de suivre son exemple. La vertu orne leurs pensées et leur assurance grandit. La dîme est considérée comme une bénédiction joyeuse et protectrice, pas comme un devoir ni un sacrifice. La vérité devient plus attrayante et ce qui est digne de louange devient plus engageant. Le repentir est le régime du Seigneur pour grandir spirituellement. Le roi Benjamin a expliqué que l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se repente aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ le Seigneur et ne devienne semblable à un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Frères et sœurs, cela signifie se convertir. Le repentir est la conversion. Une âme repentante est une âme convertie, et une âme convertie est une âme repentante. Chaque personne vivante peut se repentir. Mais qu'en est-il de celles qui sont mortes? Elles ont aussi l'occasion de se repentir. Les Écritures déclarent que quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'Évangile de repentir parmi ceux qui sont dans la servitude du péché dans le vaste monde des esprits des morts. Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres. Joseph Smith, le prophète, a aussi révélé que la terre sera frappée de malédictions, à moins qu'il y ait un chaînon, d'une sorte ou d'une autre, qui rattache les pères et les enfants. Car sans nos morts, nous ne pourrons parvenir à la perfection, et sans nous, ils ne peuvent pas non plus parvenir à la perfection. Car il est nécessaire pour l'inauguration de cette dispensation qu'une union et un rattachement complet et parfait de dispensation, de clés, de pouvoir et de gloire se produisent. Jésus veut que je sois un petit rayon de soleil? Oui. Et vous aussi. Il veut aussi que nous soyons des forgerons, forgeant des chaînes célestes pour freiner la malédiction de la fragmentation de la famille. La terre a été créée et des temples fournis pour que les familles puissent être ensemble éternellement. Beaucoup d'entre nous, si ce n'est la plupart, pourraient se repentir et se convertir à davantage d'ordonnances du temple et de recherches généalogiques pour leurs ancêtres. Ainsi, notre repentir est nécessaire et essentiel à leur repentir. Pour tous nos ancêtres décédés, pour la femme de 28 ans bourbée dans la fange du péché, et pour chacun de nous, je déclare que la douce bénédiction du repentir est possible. Elle s'obtient par une conversion complète au Seigneur et à son œuvre sainte. Je sais que Dieu vit, Jésus est le Christ, cette Église est la sienne, son prophète actuel est Gordon B. Hinckley. J'en témoigne, au nom de Jésus-Christ, Amen.
As we conclude the conference,
à la fin de cette conférence, nous remercions le chœur du tabernacle et le chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young, ainsi que les personnes qui les ont dirigées et accompagnées pour la musique belle et inspirante qu'ils ont interprétée. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé de différentes manières à ces sessions. Gordon B. Hinckley, notre prophète bien-aimé, sera le dernier orateur de cette session. Et après le discours de président Hinckley, le chœur chantera « Oh, j'ai besoin de toi ». Ensuite, D. Rex Garrett, des 70, fera la prière de clôture et cette conférence sera terminée pour 6 mois. Le président Hinckley.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons eu une très belle conférence. Nous avons reconsacré le tabernacle de Salt Lake City et il est à nouveau en usage après de vastes travaux de rénovation. Ce centre de conférence était comble à chaque session. Nos paroles sont allées aux membres de l'Église partout dans le monde. À présent, nous allons rentrer chez nous. Nous exhortons à la prudence les personnes qui vont prendre la route. Ne permettez pas un accident de détruire l'esprit de cette belle conférence. Nous espérons que vous utiliserez le numéro de mai des magazines de l'Église pour vos soirées familiales, pour étudier ce dont on a parlé durant cette conférence, ce qui a été dit par chacun des orateurs. Représente un savoir qu'il a essayé de transmettre à l'aide de la prière qui inspirera tous les auditeurs et les amènera à faire un peu plus et à être un peu meilleurs. Que la paix et l'harmonie règnent chez vous. Marie, aimez et chérissez votre femme. Elle est votre bien le plus précieux. Femme, encouragez votre mari et priez pour lui. Il a besoin de toute l'aide qu'il peut recevoir. Parents, faites preuve d'une grande gentillesse envers vos enfants. Ils sont la génération montante qui fera honneur à votre nom. Maintenant, alors que nous nous séparons pour une saison, que Dieu vous bénisse, mes chers compagnons de service. Je le prie alors que je vous dis au revoir, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance dans notre cœur, nous venons vers toi à la fin de cette session de la conférence et nous te remercions et exprimons notre gratitude pour toutes ces choses que nous avons vues et avons pu témoigner, être les témoins. Nous te remercions, Père, de ton Fils, de notre Rédempteur. Nous sommes reconnaissants, Père, que tu nous as préordonné et appelé et mis à part, que tu as préparé et mis à part un prophète merveilleux qui, à cette époque particulière, nous aide à nous préparer pour la seconde venue de ton Fils. Père, dans les cieux, nous sommes reconnaissants pour présenter une clé, reconnaissants de connaître tous ceux, de savoir qu'il nous aime et qu'il fera tout ce qu'il pourra pour nous aider, nous qui sommes partout dans le monde. Nous sommes reconnaissants, Père, pour toutes les choses que la première présence fait pour nous aider à être heureux et pour connaître la vérité et pour être heureux dans nos foyers. Père, nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui nous guide et nous aide à comprendre les choses et en témoignage de la vérité du Père et du Fils. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui jette les ponts entre les nations et entre les cultures et entre les langues, afin que tous puissent savoir, s'ils ouvrent les yeux et leurs oreilles, qu'ils puissent tous entendre, et leur cœur, qu'ils puissent sentir et connaître la vérité, afin qu'ils puissent ressentir ton esprit, que celui-ci puisse les élever et leur apporter les bénédictions qui ont été promises s'ils sont obéissants. Père, nous te demandons de bénir la jeunesse de cette Église, les jeunes gens et les jeunes filles. Bénis-les afin qu'ils puissent comprendre combien ils nous sont spéciaux à nos yeux et combien, s'ils se préparent eux-mêmes, ils pourront servir pour servir les autres et que cela leur permettra de les aider à se renforcer, à vivre les commandements et garder leur vie pure et propre, afin qu'ils puissent recevoir les bénédictions qui leur ont été promises. Père, nous te demandons de bénir ceux qui sont dans les forces armées, afin qu'ils puissent être protégés, et que tu puisses veiller sur eux, que nous puissions apprécier ce pourquoi ils se battent, ce qu'ils défendent. Nous demandons une bénédiction spéciale pour chaque missionnaire qui est en train de servir, Père, afin qu'ils puissent se concentrer sur l'enseignement par l'Esprit à tous ceux qui ont un désir d'écouter. Bénis-nous en tant que membres de l'Église afin que nous puissions comprendre que les missionnaires qui servent partout dans le monde sont là pour nous aider à porter l'Évangile à d'autres en étant fidèles à nos alliances, afin que nous puissions les aider. Et Seigneur, tandis que nous repartons dans nos foyers en ce jour, aide-nous à réfléchir sur tous les témoignages, l'encouragement et les conseils qui nous ont été donnés durant ces sessions de conférence, afin que nous puissions comprendre l'occasion qui nous a été donnée de nous élever à un niveau supérieur, afin que nous soyons plus obéissants, bénis-nous afin que nous soyons heureux dans notre vie et que nous soyons plus proches de toi et que nous puissions garder nos familles sauves pour toute l'éternité. Nous te demandons, Père, de bénir notre bon, bien-aimé prophète et ses conseillers, afin qu'ils puissent être les récipiendaires de nos prières, afin que leur santé et leur force soient renforcées, qu'ils puissent ressentir l'amour que chacun des membres de l'Église et même les petits-enfants leur portent. Père, nous te remercions pour toutes les choses que nous avons qui nous aident à être fidèles et à nous améliorer jour après jour. Et ce sont les choses pour lesquelles nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
« This has been a broadcast of the 177th
annual... Venez d'assister à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon.
This broadcast has been furnished.
Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.